Le journal Adia Chipoukou. Merci de vous joindre à nous tout de suite les titres de cette édition. La localité de Katuigourou au nord Kivu cible depuis plusieurs semaines des bandits à main armée. Ils ont pillé mardi des habitations. La 9e région militaire est intervenue, tuant l'un d'eux dans les échanges des coups de feu. Les acteurs politiques congolais appelés à respecter leurs engagements pour le retour de la paix et pour des élections paisibles. Déclaration du président du comité des sages, Joachim Chissano, dans un point de presse ce matin à Kinshasa. Au Kasaï oriental, la direction générale de la MIBA scellée par la DGRAD, cela dans le cadre des opérations de recouvrement forcé des taxes pour l'exercice budgétaire 2006. Voilà tout pour les titres, tout de suite les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et ouvrons tout de suite cette édition dans la province du Nord Kivu. La localité de Katuigourou, à plus de 25 km à l'est de la cité de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, a une fois de plus été l'objet ce mardi des pillages des hommes armés. Selon les responsables de la police sur place, les assaillants ont pillé plusieurs habitations, emportant tous les effets de valeur qu'ils pouvaient trouver. Avec l'intervention des militaires de la 9e brigade intégrée basée dans la région, un des assaillants a été tué et un civil blessé dans l'échange des coups de feu. C'est depuis plusieurs semaines maintenant que des pillages sont enregistrés dans le secteur de Katuigourou et Kacharou. Des précisions avec Gisèle Cage.
C'est tard dans la nuit de lundi à mardi que des assaillants armés ont attaqué la localité de Katuigourou où ils ont pillé plusieurs habitations. Selon le responsable de la police sur place, l'identité des assaillants n'est pas encore connue. Ils n'hésitent pas toutefois à montrer du doigt ceux qu'ils appellent de jeunes gens venus de la localité de Kisharo voisine. Selon la même source, c'est depuis plus de deux mois maintenant que plusieurs cas de pillage sont enregistrés entre Kisharo et Katuigourou. Un assaillant a été tué par des éléments de la 9e brigade intégrée qui l'est pourchassée. Civil qui a été pris en otage par ces bandits pour transporter les biens volés a été blessé par balle au cours des tirs engagés par les FARDC. Le blessé est actuellement interné à l'hôpital général de référence de Nyamilima, selon l'administrateur adjoint résident dans cette localité. La police dit avoir commencé une enquête pour identifier les assaillants. Gisèle Cage Goma, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale. Troisième journée de l'opération Kinshasa sans armes ce mercredi 4 octobre. La patrouille mixte composée des éléments de la police intégrée, de la police d'intervention rapide et la police militaire ainsi que de l'EPOL et des contingents indiens et tunisiens de la MONUC a quitté tôt ce matin aux environs de 8 heures l'inspection provinciale de Kinshasa IPK pour les quartiers périphériques de la capitale. Notre consoeur Broy Munganga a suivi depuis ce matin ce convoi. Elle vient d'être joint au téléphone il y a quelques instants par Jacques-Yves Molima.
Le patrouille ne se passe pas dans les casernes, mais plus sur le voie publique. Donc les personnes interpellées sont celles qui sont sur le voie publique et qui portent les armes de manière illégale ou sans ordre d'émission.
Et puisque vous parlez des personnes interpellées, est-ce qu'on a déjà procédé à des arrestations?
Si, nous avons assisté à 3 arrestations. Et par exemple, à Kinshasa Niasouka, où je suis maintenant, nous avons assisté à l'arrestation d'un militaire de GFSP. Il était porteur d'armes, il n'a pas pu montrer un ordre d'émission qui pouvait justifier sa présence sur le lieu. Et comme il voulait montrer une certaine résistance, la police militaire, la police d'intervention rapide sont intervenues pour l'arrêter et le mettre dans un camion qui suit au fait la patrouille. Et où on met tous ceux-là qui sont arrêtés.
Vous dites que vous êtes à Kinshasa Niasouka. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance là où vous trouvez maintenant?
Il faut dire que nous sommes à côté d'un marché et sur place là, il y a un arrêt de bus, il y a même des parcs. Les habitants, en fait, sont contents de voir qu'on a arrêté ces militaires parce que selon eux, il était là à tracasser les gens, à leur dire qu'il fallait qu'ils quittent le bord de la route parce que le président va passer. C'est ça l'ambiance, en fait.
Signalons aussi que 2 autres personnes armées viennent d'être arrêtées, toujours selon notre consoeur Broy Munganga. Il s'agit d'un soldat de la justice militaire et d'un policier. Par contre, un autre policier a été, lui, interpellé puis relâché après. Il avait ses documents en ordre. Un mot à présent sur le processus électoral. Le Comité international des sages, optimiste pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort du point de presse tenu ce matin au quartier général de la MONUC à Kinshasa. Le président du comité a en outre demandé aux acteurs politiques de respecter leurs engagements pour le retour de la paix et pour des élections paisibles. On écoute Joachim Chissano, président du Comité international des sages. Il est au micro de Kéline Couté.
Nous pouvons espérer des élections apaisées. Nous avons assisté à la formation des coalitions et pendant cette période, tous ont parlé de la paix et même de l'unité nationale. Je dirais que notre optimisme se base dans la confiance que nous avons sur la population qui a carrément démontré qu'elle est pour la paix et qu'elle va travailler pour la paix. Et nous soutenons ce travail pour la paix de toutes les organisations. Nous croyons, notre optimisme est basé sur le fait qu'avec la formation des coalitions, nous avons plusieurs idées des anciens belligérants qui aujourd'hui se donnent la main avec d'autres groupes qui ne sont pas le groupe des belligérants.
Joachim Kissano, président du Comité international des sages. Une semaine après le début de la campagne pour la députation provinciale, aucun poster n'est visible dans les rues de Chabunda Centre, c'est dans le sud Kivu. Et pourtant, 40 candidats à la députation provinciale sont dans la course. D'ailleurs, la plupart de ces candidats viennent de Bukavu ou de Kinshasa. Chabunda est le territoire le plus isolé du sud Kivu, à plus de 350 km de Bukavu, suivant le reportage de Dieudonné Bagalwa.
À Chabunda, à part cette seule personne qui appelle les électeurs à voter pour un candidat, aucun autre signe de début de campagne n'est visible. Il n'y a ni rassemblement, ni réunion politique, ni poster. D'ailleurs, les habitants de Chabunda semblent se désintéresser de cette campagne, car sur 40 candidats en lice, environ 30 d'entre eux vivent en dehors du territoire de Chabunda. On écoute ses habitants.
Ils n'ont pas d'argent et nous, nous voulons de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Oui, il y a des noms que nous entendons, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas d'où ils viennent, mais ils sont d'ici chez nous.
Du côté des candidats députés provinciaux, ils se disent lâchés par leur famille politique. On écoute Bouanangela Michel Bertin.
Nous avons des difficultés. Pareil que les campagnes ne sont pas financées par nos partis politiques. Nous qui sommes de la députation provinciale, nous sommes à peine délaissés et il n'y a personne qui intervient. Donc c'est par nos propres moyens qu'on va voler.
Et malgré ça, les électeurs se disent prêts à participer massivement au prochain vote. Dieudonné Bagalwa, Bukavu, Radio Okapi.
Autre tableau de cette campagne électorale pour les provinciales, à Bounia, les photos et effigies des candidats au premier tour des présidentielles, ainsi que celles des candidats aux législatives nationales, sont encore affichées sur toutes les places publiques jusqu'à ces jours. À ces photos s'ajoutent celles des candidats aux législatives provinciales actuellement en pleine campagne. Ces derniers expriment leur inquiétude face à cette situation qui, selon eux, risque de dévier les électeurs. Ces derniers pourraient voter pour des personnes qui ne sont plus concernées par la course électorale, estime-t-il. Les détails avec Isaac Remoyope.
C'est à l'entrée de la ville de Bounia, lorsqu'on provient de l'aéroport, que l'on aperçoit un grand panneau sur lequel est attachée la photo à l'effigie du vice-président Azarias Ruberwa. Juste à côté, même décor pour le vice-président Jean-Pierre Bemba, opposé à celui du ministre Tibassima Atteni, candidat maléré aux législatives nationales du 30 juillet dernier. Et c'est sur toutes les places publiques de cette ville que de nombreuses photos des candidats tant du premier tour, des présidentielles que des législatives nationales sont encore aperçues. Depuis la semaine dernière, des photos des candidats à la députation provincial renforce les décors. Adiro Doudjari, candidat à la députation nationale pour le compte du Mouvement pour les Renouveaux Sociaux, MSR, est inquiet.
Pour les anciennes photos, les anciens candidats députés nationaux restent encore sur les murs. Ça nous gêne puisque nous craignons la confusion qui risque de se créer dans la tête de nos électeurs à choisir encore les anciens numéros, alors que les numéros qu'on leur donne, ce sont d'autres numéros actuels.
Selon les responsables du bureau de liaison de la commission électorale indépendante à Bounia, ces photos auraient dû être enlevées par les responsables des partis politiques et des candidats au plus tard à la veille des élections du 30 juillet. John Okunia.
On devrait procéder à l'enlèvement de tous les effigies ou photos, si vous le voulez, des candidats 24 heures avant la date du scrutin. Les concernés devront tout de suite, n'est-ce pas, enlever ces effigies-là pour ne pas être en dehors de ce que la loi prévoit.
Les autorités du district de l'Ituri, sans préciser la date, promettent de mettre fin à cette confusion le plus tôt possible. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Kindu, le gouverneur de province du Maniema rappelle aux administrateurs des territoires leur mission pendant la campagne électorale et la tenue des élections. Ils sont donc tenus de respecter le choix de leurs administrés et ne doivent pas battre campagne pour un candidat. C'est au cours d'un séminaire-atelier organisé hier 3 octobre à l'intention des administrateurs des territoires du Maniema que Kolosso Soumaïli l'a rappelé. Des précisions avec Mamia Lili Chibangu.
Ce séminaire de rappel de 2 jours intervient après l'évaluation par l'exécutif provincial de l'implication des administrateurs des territoires du Maniema pendant la campagne électorale et les élections de la présidentielle, premier tour, ainsi que celle des législatives. Plusieurs rapports avaient fait état de la participation de certains administrateurs des territoires qui auraient battu campagne pour certains candidats à la députation nationale. Pour pallier cette situation, pendant la campagne électorale et la tenue des élections de la présidentielle, deuxième tour, et de la députation provinciale, le gouverneur du Maniema, Koloso Soumaïli, en présence de membres du Conseil de sécurité provinciale et des administrateurs des territoires, a recommandé à ces derniers ce qui suit. Les administrateurs doivent observer la neutralité et ne doivent pas influencer le choix de leurs administrés. Ils sont les présidents de la sécurisation des élections dans leurs différentes juridictions et sont invités à organiser des séances de sensibilisation à l'intention de la population pour la bonne tenue des élections prochaine. À défaut de l'observation de ces recommandations, des sanctions administratives et juridiques seront mises en application. Mamia Lili Chibangu, Kindu, Radio Kapi.
12h12 à Kinshasa, 13h12 à Mbujimayi, c'est dans le Kasaï oriental. Économie au Kasaï oriental, la DGRAD procède depuis lundi au recouvrement forcé des taxes pour l'exercice budgétaire 2006. Parmi les entreprises concernées, la minière de Bakwanga, MIBA en sigle. La direction de ravitaillement de la MIBA a été scellée hier par les services de la DGRAD. D'autres entreprises commerciales sont également concernées, notamment des chaînes de radio et télévision, voire des magasins et autres boutiques. Les détails avec Julien Niamouini.
La décision est tombée mardi en début de l'après-midi quand la direction provinciale de la DGRAD, direction générale des recettes administratives domaniales, a ordonné la mise sous scellé de la direction de ravitaillement de la MIBA. Selon le chef de division de recouvrement de la DGRAD, Damien Matumona, cette décision résulte du non-paiement d'un montant de plus de 500 000 dollars américains, un montant selon la division de recouvrement qui devra être payé par échelonnement. La MIBA reconnaît qu'il s'agit d'une question de la fiscalité, mais parle d'un montant de 200 000 $. La MIBA pense que la mise sous scellage de sa direction de ravitaillement n'est pas réfléchie dans la mesure où elle permet de ravitailler le personnel. Elle peut donc occasionner des remous sociaux au sein de l'entreprise, ce qui pourra perturber la production. Par ailleurs, l'État doit à la MIBA plus de 30 millions de dollars américains, explique-t-on ici. Le logement des autorités politico-administratives, militaires, mais aussi celui de principaux directeurs des régies financières en termes de consommation d'eau, de l'électricité, des soins médicaux sont pris en charge par la minière de Bakwanga. Bref, tout cela constitue un manque à gagner important. La DGRAD attend pour ce second semestre un montant de l'ordre de 360 millions de francs congolais, assignation du ministère des Finances. Julien Niamouini, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis au Katanga, c'est la mise en place hier d'un nouveau comité de gestion à la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo. L'ancien comité a été suspendu par un arrêté interministériel rendu public hier soir. Cette décision est devenue sujet à controverse à la SNCC. Pour les uns, elle tombe à point nommé, alors que pour d'autres, c'est un règlement de compte. Sous place à la SNCC, Jean Gande nous en parle.
Dans les installations de la SNCC, le petit groupe des agents se font et se défend. Au menu, la dernière mise en place du nouveau comité de gestion décidé hier dans un arrêté interministériel. Au terme de celui-ci, l'ancien comité de gestion est suspendu et remplacé par un autre à titre intérimaire. Cette information est diversement interprétée parmi les agents de cette compagnie ferroviaire. Les uns estiment qu'il était temps que ce comité soit remplacé car n'ayant pas réussi à apurer les arriérés de salaire qui sont évalués à plusieurs mois. D'autres, par contre, trouvent dans cette mesure un règlement des comptes. Pour eux, les comités de gestion sortants et les frais de son refus de signer un contrat passé entre la SNCC et une société anglaise dénommée Camec. Cette dernière devait exploiter la ligne ferroviaire reliant Sakania à Dilolo pendant 20 ans pour plus de 30 millions de dollars américains. Pour l'heure, difficile de joindre les comités de gestion sortants pour confirmer ces allégations. Dans l'entretemps, le mouvement de grève entamé il y a près de 2 mois dans les ateliers centraux de la SNCC n'est pas encore totalement levé. Des installations de la SNCC, Jean Gandou, Radio Okapi.
Un seul titre en page internationale, l'Ouganda et la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur LRA sont très proches d'un accord pour mettre fin à 18 ans de guerre civile. C'est ce qu'ont affirmé hier mardi des représentants des deux camps. Ces déclarations interviennent quelques jours après des accusations mutuelles de violation de l'accord de cessation des hostilités conclu le 26 août entre Kampala et la LRA. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiookapi.net. Notez également que ce journal est rediffusé en ondes courtes. Notez la fréquence 11 890 kHz. Excellente condition d'écoute sur Radio Okapi.